C'est l'histoire d'un couple d'artistes façonné par la contre-culture, la marge des années 70, et à deux, ils ont dominé la chanson française des années 80. Ce matin, je vous propose la réécoute d'un Pop and Rita ou Pop and Mitsuko, parce que c'était lui, Fred Chichin, disparu en 2007, et parce que c'est elle, Catherine Ringer, qui continue d'interpréter l'œuvre de leur duo et les morceaux qu'elle écrit en solo. C'est l'histoire d'un couple qui a dynamité les codes de la chanson française par leur musique à la fois changeante et tout de suite reconnaissable. Et puis il y avait leurs attitudes et les images qu'ils ont inventées entre clips et pochettes d'albums. Les Rita, c'est ça. De l'avant-garde, devenu grand public, pour toucher tous les milieux et tous les âges. C'est sur leur discographie parue dans les années 80 qu'on va zoomer ce matin. Et on va le faire avec elle, que le metteur en scène Alfredo Arias décrit comme ça. Dans le même instant, Catherine Ringer peut être personnage de dessin animé et femme fatale. Une autre voix féminine est à l'honneur dans Pop & Co aujourd'hui, c'est celle de Yael Naïm. Comment écrire un morceau sur un père disparu ? Réponse avec sa chanson « Daddy », entrée dans les coulisses de « Daddy » signée Yael Naïm, c'est le programme un peu avant midi. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Elle a demandé « Ça va, pour l'interview, vous avez ce qu'il faut ?» Et ce qu'il faut de nos jours, c'est Kleenex et gel hydroalcoolique.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Et j'avais tout ce qu'il fallait. Et Catherine Ringer a nettoyé le micro.
Oh, zut, il marche plus. Ok, alors c'est moi qui le tiens, comme ça c'est plus... C'est rigolo, ça change en plus. Donc vous posez les questions et je réponds, on fait comme ça.
Ouais. Don't forget the night when the day begins. Don't forget the night when it's just finished. Don't forget the day when just 11. Don't forget the night. 2, 1, 2, 3.
Nous sommes à la cantine de la Cigale, salle de concert parisienne sur le boulevard de Rochechouart, au nord de Paris. La Cigale, c'est un peu chez elle. Catherine Ringer et Fred Chichin l'ont inaugurée par une série de concerts quand la salle a réouvert en 1987.
Vous avez été à l'aise sur scène tout de suite?
Oui, j'ai toujours bien aimé me montrer. Comme disait Rufus, il faisait un spectacle au Café de la Gare où il arrivait et il commençait comme ça, avec une petite valise, l'air de rien, et il arrivait et disait « C'est ici pour se montrer ?» Et effectivement, c'était là qu'il fallait qu'il se montre, puis c'était sur scène. J'ai toujours bien aimé ça. J'ai commencé jeune, j'ai commencé aussi tôt à faire des photos comme mannequin pour ramener un peu de sous à la maison, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Comme mon père travaillait, mais il n'avait pas beaucoup d'argent, et ma mère était mère au foyer après ses études d'architecture. Donc, j'ai toujours bien aimé ça et je me suis toujours sentie très à l'aise, en fait. Parce que j'aime emmener dans un monde imaginaire. En fait, sur la scène, pour ceux qui connaissent le film Mary Poppins ou des choses comme ça, on crée un monde imaginaire avec le public qui est là, qui reçoit, et on part tous ensemble. Et ça, j'adore ça, en fait, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'est utile aussi, sûrement.
1, 2, 3, 4.
Nous sommes en 1987 et la jeunesse est devant la télé, allumée sur Antenne 2 tard, le samedi soir, parce qu'il y avait les enfants du rock. Cette nuit-là, Philippe Manœuvre était en direct depuis la Cigale. Et Philippe Manœuvre ramait, parce que le groupe prévu sur scène n'arrivait pas. Et les Rita Mitsuko venaient de jouer, et les Rita Mitsuko avaient remballé tout leur matériel. Alors quoi faire quand on est tout seul en direct à la télé? Bah on meuble. Et on essaie de maintenir l'ambiance comme on peut.
Catherine Ringer! Allez!
font du rock. Ouais. La fête. Ouais. Big Audio Dynamique. Ouais. Bon, écoutez, s'ils ne veulent pas jouer ce soir, nous allons vraiment refaire une chanson avec les Rita Mitsuko. Ouais. Je sais pas, Andy à 80. Faisons une à 80. Eh bien, Catherine va vous interpréter une chanson a cappella. Vas-y.
Laquelle je pourrais faire, alors? La jalousie?
Ouais.
La jalousie te créera le cœur. Tu attends, tu guettes, tu es, puis tu pleures. À ta merci, tu voudrais voir cette femme, ces putes, ces salopes qui traînent là.
Heureusement que Catherine Ringer était là pour sauver la mise à Philippe Manœuvre, parce que qui d'autre qu'elle pour se lancer comme ça, dans un a cappella improvisé et sans filet, en direct à la télé.
J'ai toujours aimé chanter depuis que je suis toute petite, et j'avais une voix très haut perchée, qui pouvait monter très haut, je chantais toujours très juste, et elle s'est façonnée en travaillant, puisque j'ai commencé en fait à 17 ans avec un musicien de ce qu'on appelle musique contemporaine, qui s'appelait Michel Pouch, écrire... P-U-I-G, parce que je crois que c'est un nom basque. Et en fait, il nous demandait de faire des trucs avec la voix qui ne se faisait pas. Donc chanter à l'envers, par exemple, vous voyez, comme ça. Ou très aigu, très grave, avec des sons pas possibles. Enfin, il cherchait tous les sons de voix qui n'étaient ni l'opéra, ni la voix classique.
Très bien.
Vous êtes branché sur l'émission Bruits en fête et sons de plaisir, diffusée sur TF1. Nous sommes en juillet 1978. Catherine Ringer est en répétition avec Michel Pouch et elle est dirigée par Michael Lonsdale.
Voilà, un tempo, oui.
Oui.
Ça, c'est très joli. Si tu lâchais comme ça tout d'un coup. On peut masquer, on peut arranger son visage, son expression, on peut la modifier, on peut la déguiser, on ne peut pas déguiser la voix. C'est vraiment la révélateur de l'être profond.
Donc on faisait des spectacles où on faisait des sons invraisemblables, et donc j'ai eu une bonne formation là, en faisant ça, parce que c'était assez difficile au niveau endurance vocale. J'ai fait du Brecht, où je chantais toutes les chansons de dans Mère Courage, Bon, pendant 4-5 ans, comme ça, de 17 à 21, je faisais tout ça. Et puis j'avais là aussi, je me suis formée en chantant sur les disques. Comme beaucoup de gens, on chante sur les disques qu'on écoute. Moi, j'ai tellement écouté de musique classique européenne, peut-être ça plus que Fred.
Mais vous chantiez sur quel disque ?
Alors, bah justement, des tas de trucs. Ça pouvait être, j'ai pu chanter de l'opéra, mais je chantais les voix des hommes, les voix des femmes, je chantais la musique aussi. Je ne sais pas si vous entendiez une trompette de Bach. Je changeais mon timbre un peu. Je ne sais pas si j'aurais pu faire imitatrice, mais peut-être.
C'est grâce à ça, c'est grâce à son slalom entre musique contemporaine, opéra rock et théâtre expérimental que la voix de Catherine Ringer est un cas unique dans la chanson française. L'identité d'Erita Mitsuko est là aussi, dans ses solos de voix, comme dans Mondolino City, des textes, des bruits et des onomatopées.
Woo!
fois cette, ces capacités vocales-là, ça vous a permis de jouer dans des registres très très différents. Et en même temps, je me disais, c'est comme quand on est face à... Non. quand on est par rapport à un instrument où tout est possible, ça peut être aussi un peu tétanisant, quoi.
Mais en fait, au début, justement, quand je vous disais travailler avec Fred, ça, on a appris, je lui disais, qu'est-ce que tu veux comme voix? Alors, il me disait, bah, comment ça, qu'est-ce que tu veux comme voix? Je veux ta voix. Il dit, oui, mais tu veux une voix grave, une voix aiguë, une voix comme ça, parce que j'avais cette habitude. Il m'a dit, mais non, va profondément en toi et sors ta voix instinctive, ta voix à toi. Et je me disais, ma voix à moi, mais elles sont toutes à moi, ces voix. Puis finalement, ça s'est fait, ça se faisait naturellement, quoi. Mais il se trouve que j'ai une voix très solide. Ce que m'a dit le docteur de la voix, une fois j'étais allée, j'étais à Foune, il m'a fait « Ah, vous avez une patte d'oie sur les cordes vocales !» Je dis « Ah bon, docteur
hey !»
Il me fait « Oui, mais non, mais c'est très bien, ça veut dire que vous avez un muscle qui vous les tient comme ça. » Et ça, ce sont des gens qui ont une voix très solide. Alors je dis « Ouf, docteur !»
En décembre 2019, Catherine Ringer est sur la scène de la Philharmonie de Paris pour chanter les Rita Mitsouko. Et ça a donné un live, publié l'automne dernier.
Oh, Marcia, elle danse sur du satin de la rayon du polystyrène expansé à ses pieds. Et Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des coups frais, de flèches qui donnent des idées, des sensations. En mal, tiens, elle est maigre, belle en scène, belle comme à la ville. La voir danser me transforme en excité. Comme ta bouche est immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie, mais Marcia.
Salut à tous, c'est Jackie, tu vous présente Platine 45. Mon invité de la semaine, c'est Catherine du groupe Rita Mitsouko.
Ça, c'était en 1984 sur Antenne 2. Et là, nous sommes en 2021 sur France Inter, ce qui nous donne... Bonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez, c'est Rebecca Manzoni qui vous présente Pop & Co. Et l'épisode de cette semaine est dédié au Rita Mitsouko.
Bonjour Catherine, comment ça va?
Ça va super.
Ah ouais, ça a l'air, ouais. Dis-moi Catherine.
Ouais.
Tu fais tout à deux.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est mieux.
D'où ça vient Rita Mitsouko?
Rita, bah, c'est toutes les héroïnes de western, les filles un peu...
Ouais.
Mitsouko, c'est une histoire de parfum.
D'accord, bah merci Catherine d'être restée avec moi.
Salut.
Tu t'en vas tout... Attends, je veux dire au revoir. On se retrouve mercredi prochain à 18h, et puis samedi à 11h30, hein, sur Antenne 2. Salut.
C'était quoi ce bruit?
Je suis
suis désolé, je coupe le son.
Non, Stan, ne coupez pas. Voici Stan Kuesta, qui se présente comme un musicien défroqué, devenu auteur et journaliste. Stan Kuesta a écrit une biographie intitulée « Catherine Ringer et les Rita Mitsouko », parue chez Hoébec, dans la collection « Les Indociles ».
C'est le niveau de spontanéité qui était impressionnant chez eux, surtout chez elles en fait. C'est pas calculé comme Gainsbourg qui savait très bien qu'il allait brûler un billet de banque en direct à la télévision ou dire une insanité à Whitney Houston, etc. Catherine, c'était plus j'arrive comme ça et en fait je perds ma dent pendant le playback et puis je la cherche à quatre pattes pendant la télé, quoi. Mais elle avait pas fait exprès. Tout ça chez Drucker quand même, faut le faire, quoi. C'est assez génial. Donc il y a quelque chose qui résume beaucoup, ça vaut aussi pour ces passages télé, mais pour plein de choses, de s'en foutre du quand dira-t-on. Voilà, je parle dans le livre d'un de leurs premiers concerts, mais ils l'ont fait pendant plusieurs concerts, c'était au tout début, vers 82, bien avant qu'ils fassent un disque. Ils s'étaient confectionnés des vêtements avec des sacs en plastique Félix Potin, qui était un épicier de l'époque. Voilà. Donc c'était même pas punk, c'était complètement presque un look hallucinant, quoi, qui n'existait nulle part. Ils se promenaient tous les deux avec leur magnétophone et ils jouaient sur scène accompagnés par un magnétophone, ce qui était du jamais vu. C'est-à-dire, ça se faisait dans les milieux de la musique contemporaine à la limite, mais pas dans le rock'n'roll. Et ça, c'est très important dans sa musique, à Catherine Ringer et à Fred, tous les deux, c'est de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, sans aucune notion de est-ce que c'est ridicule, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est de bon goût. En fait, il y a eu une espèce de dictature du bon goût à un moment, dans la variété et dans le rock, qui faisait qu'il fallait surtout qu'il n'y ait rien qui dépasse, avoir une attitude parfaite, alors avec les cheveux gominés comme il fallait, le petit costard, etc. Tout était hyper contrôlé dans cette époque où l'image devenait très importante, l'image, la télévision, les clips, tout ça. Et tous les artistes étaient, beaucoup en tout cas, étaient sur leur qui-vive. Attention, est-ce que j'ai donné mon bon profil à la caméra, etc.
Là où on célébrait les meilleurs profils des chanteuses et chanteurs d'ici et d'ailleurs, c'était dans le top 50.
Top 50.
Top 50, l'émission qui rend fou.
Et le présentateur qui vous accueillait d'un mystérieux « Salut les petits clous », c'était Marc Toesca.
Cinquième, Demis Roussos, « Quand je t'aime ». Il est resté 27 semaines dans le top, meilleur classement, troisième.
Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent.
Bon, quand les Rita ont publié leur premier album en 1984 précisément, parmi les numéros 1, il y avait aussi ceci. Ou encore cela. Et les Rita, dans tout ça, ils détonnaient.
Parce que les années 80 ont été vraiment le règne de la technologie portée au pinacle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voulait un son propre. Enfin, les musiciens ou les producteurs voulaient un son propre. C'était le début des sons de synthé qui claquent, des batteries insupportables tellement la caisse claire était forte, etc. Et eux, ils étaient complètement à part de ça. Et leur deuxième album, Zono Comprendo, qui est par bien des côtés leur chef-d'œuvre. Ils l'ont enregistré à Londres, mais dans un tout petit studio, et ils ont été recherchés comme producteur Tony Visconti, ce qui n'était vraiment pas un hasard, puisque Tony Visconti était le producteur qui, 10 ans auparavant, avait sorti tous les grands titres de Marc Bolan et de David Bowie au début des années 70. Donc ils étaient dans cette optique-là, qui était très rock'n'roll et presque, oui, de 10 ans d'âge. Alors que les années 80 étaient en train de ringardiser le rock'n'roll d'une certaine façon. Ils avaient une liberté que n'avaient pas les autres parce qu'effectivement, ils n'écoutaient qu'eux-mêmes, en fait. Voilà. Marcia Baila a été un tube énorme. Ils n'ont jamais refait un morceau qui ressemblait à Marcia Baila. Et dans la foulée, ils ont été faire un album à Londres, Zono Comprendo, qui est totalement rock'n'roll, avec beaucoup de guitare. Et ensuite, ils changent complètement, ils se dirigent plus vers le funk. Ils incluaient dans leur musique plein d'autres influences.
notamment grâce à Catherine. Disons que Fred était un peu le côté effectivement rocker anglo-saxon qui était fan de tout ça, et elle, elle avait ce côté absolument pas dans les barrières d'un genre. Elle s'en foutait complètement et elle s'en fout toujours.
Quand je me suis rendu compte que je faisais du rock avec Fred, je me voyais déjà comme un Rolling Stone ou un Beatles. Ouais, je m'étais dit, mais en même temps, ça ne se serait pas passé, c'était pas non plus dramatique. Mais je me souviens de moi en train de courir dans la rue, je me sentais comme une future star du rock, peut-être. Donc c'était quelque chose qu'on envisageait. Et le fait aussi de ne pas avoir été aussi connu dans le reste du monde que ce qu'on a été dans la francophonie, je sais que Fred, lui, ça a été très dur pour lui, par exemple, parce qu'il voulait faire partie du monde qu'il aimait, c'est-à-dire le rhythm and blues, le blues, la pop, le rock, le funk. Il ne voulait pas du tout, il m'avait dit... si jamais on te traite de grande dame de la chanson française, fuis. C'est que c'est quelque chose qui ne va pas. Mais ce qu'il voulait faire, c'était la musique internationale, en fait. Ce qu'on réussit à faire, Daft Punk et tout ça. Et il m'injonctait souvent à chanter en anglais. Parce qu'il me disait, en français, on reste qu'en France. Et moi, j'aimais aussi chanter en français. Je disais, mais oui, mais nous, on écoute des trucs en anglais. On ne les comprenait pas. Ils ont qu'à se taper des trucs qu'ils ne comprennent pas aussi.
Catherine Ringer a aussi chanté en anglais des morceaux qu'elle a écrits ou co-écrits avec d'autres. À l'occasion d'une tournée d'Erita Mitsuko à Los Angeles, Catherine Ringer et Fred Chichin rencontrent un groupe dont ils sont fans, les Sparks, soit deux frères, Ron et Russell Mell. Comme l'admiration est mutuelle, les Sparks écrivent « Singing in the Shower » pour l'Erita, l'histoire d'un couple accro à faire l'amour sous la douche, Catherine Ringer, Russell Mell en duo. La musique que vous faites et que vous avez faite, c'était précisément faire de la musique avec ce qu'on a sous la main.
C'est bien trouvé. Elle l'a bien dit, la dame.
Ça ressemblait à quoi, votre premier studio à la maison ? C'était comment ?
Bah, en fait, comme Fred avait passé son appartement à sa mère, qui était divorcée, et ils avaient tout perdu, les parents, dans un divorce catastrophique. Donc lui, il savait pas tellement où habiter. Donc finalement, il est venu habiter chez moi. Et chez moi, c'était une chambre et une espèce de pièce qui sert cuisine. Et on a fait le studio là. C'était un home studio, ce qui s'appelle. Donc c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'était pas un grand studio des maisons de disques, mais c'est un endroit où en fait c'est comme on dirait un atelier pour un peintre. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps là et c'est vous qui faites votre palette. Mais ça, c'était possible parce que Fred était ingénieur du son.
Et alors passer dans un studio, dans un truc professionnel.
C'est enfin, plus grand en tout cas, parce que c'était professionnel, mais
plus grand, mais avec plus de moyens aussi.
C'est ça, beaucoup de moyens et aussi la pression de c'est maintenant et c'est pas ni avant ni après qu'il faut réussir la chose. On préfère avoir un endroit petit et à nous où on peut passer le temps qu'on voulait. Mais la première fois qu'on a essayé de refaire ce qu'on avait fait dans un grand studio, on l'a discrètement mis à la poubelle et remplacé par ce qui venait de notre Revox de piste.
Pourquoi ?
Parce que c'était moins bien. Mais on ne pouvait pas le dire à la maison de disques qui avait dépensé de l'argent. Donc, ils n'auraient pas été contents, peut-être. Donc, on l'a fait sans le dire, en tout cas. Et Martia Baila, voilà, ça a été le résultat de ce qu'on avait fait direct.
Et dans la cuisine, Ringer Chichin, il y avait des sons comme ça qui ont donc été gardés. Comme Catherine Ringer prenait un accent sur Martia Baila, on se demandait si c'était l'amour ou la mort qui avait assassiné la fameuse Marcia, si c'était un concert ou un cancer qu'elle avait pris sous son bras.
Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Marcia. C'est l'amour qui t'a consumé, Marcia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble, sans l'amour. C'est comme une chose impossible. Et même à toi qui es forte comme une fusée. Et même à toi qui es la vie, même Marcia. C'est l'amour qui t'a emmené.
Marcia Baila, l'un des plus gros tubes français de la décennie 80, est un hommage à Marcia Moreto, danseuse et chorégraphe argentine, disparue d'un cancer à l'âge de 32 ans. Catherine Ringer a été son élève et son amie. Donc elle chante et crie la mort de Marcia sur une bande-son de fête, le truc qui met tout le monde sur la piste à tous les coups. Parler d'une tragédie sur une musique qui donne une sensation de légèreté, c'est aussi ce que les Rita ont fait pour une chanson qui s'intitule « Le petit train ». Le texte évoque les trains de la mort. Sam Ringer, né en Pologne en 1918, fut déporté au camp d'Annaberg en 1940. Il fut transféré vers d'autres camps jusqu'en 1945, date à laquelle il fut libéré. Sam Ringer était peintre, c'était le père de Catherine Ringer.
On a commencé comme souvent par faire de la musique. À l'époque, on était des fous de Prince. Donc on a fait une musique un peu de princière. Et puis une fois qu'on avait bien avancé, qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme texte là-dessus qui va bien ? Et je vais chercher les enfants à l'école, à l'époque il y a un temps maternel, et je les vois en train de rentrer, en train de faire le petit train comme on fait souvent avec les enfants à la maternelle. Ils faisaient « Le petit train s'en va dans la campagne », qui est en fait une chanson des années 50 d'un auteur dont je me souviens plus le nom là actuellement, mais on cherche maintenant, on interrompt deux secondes.
Je peux vous demander de tenir le micro ?
Oui.
Je mets quoi ? Je mets le petit train.
Le petit train dans la campagne, chanson, et vous allez trouver
André Claveau.
Ouais, d'accord. Vous voulez l'écouter deux secondes, ça vous amuse. Le début, c'est la même chose. Allez-y, moi je la connais.
Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin.
André Claveau, donc, on y va.
plein d'entrain.
Et soudain, j'ai eu vraiment l'inspiration de dire, mais oui, ça marche super avec, c'est à peu près la même mélodie que le truc qu'on est en train de faire. Et je me suis dit, ah, ce serait chouette de parler de ce train de la mort qui m'a, bien sûr...
qui fait partie de votre histoire.
Surtout de celle de mon père, mais donc du coup, et puis de ma famille, un peu des deux côtés d'ailleurs, mais j'ai eu une illumination en me disant, mais c'est merveilleux, parce qu'en fait, c'est le côté très bucolique, très joli de cette campagne, sûrement, où passaient ces trains pleins de déportés, où c'était épouvantable ce qui se passait dedans, puisqu'ils étaient, comme on sait, je ne vais pas vous raconter les trains de la mort maintenant, mais en tout cas, le contraste entre la paysannerie riche, allemande, des vaches, du lait à profusion, et puis de l'autre côté, l'horreur et le... Mais c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, parce que même maintenant, par exemple, on peut dire que nous, on est bien tranquille dans un café, avec moi, je bois un truc chaud et tout, mais juste à côté, il y a des migrants, et puis pas seulement les migrants, mais il y a des gens qui, pour qui ça va très mal, qui sont très dans la difficulté, qui vivent des trucs horribles. Voilà, que la vie est toujours, enfin pour moi, pleine de hauts et de bas, de choses terribles et de choses merveilleuses, de moments pleins aussi où il se passe rien de spécial, de moments très banals, que la vie est pleine de tas de trucs, donc de ce tas de trucs, je puise pour faire des chansons.
Rita Mitsouko aimante le meilleur de la création française. Jean-Baptiste Mondino, photographe et réalisateur de clips. Jean-Paul Gaultier, couturier. Et puis il y a un Jean-Luc, qui n'est pas français mais suisse. C'est Jean-Luc Godard, qui filme les Rita Mitsouko en 1987 pour son film « Soigne ta droite ».
Et vous me voyiez avant là ?
Non, on ne le voit pas mais on l'entend. C'est l'auteur et journaliste Stan Cuesta qui intervient depuis Montpellier pour ce Pop & Rita.
C'était le groupe, quoi. Moi, je me souviens, dans les années 80, donc c'était 86 par là, je faisais de la musique aussi. Il y avait, en gros, on disait, les seules personnes qui font des choses importantes et intéressantes en ce moment, au milieu de cette espèce d'époque de conformisme, c'était Prince aux États-Unis et les Rita Mitsouko en France. C'était carrément à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on disait, il n'y a que, quoi. Et c'est vrai que le cinéma, et notamment Godard, n'a pas été insensible à ça. Et il a filmé deux groupes de rock dans sa vie, qui sont les Rolling Stones sur One Plus One, donc en 69, et 15 ans plus tard, les Rita Mitsouko dans Soigne ta droite. C'est les deux seuls groupes de rock auxquels ils se soient jamais intéressés. Et ils voulaient les filmer au travail.
Extrait de Soigne ta droite.
Ah, qu'on a pu répéter, c'est là.
Mais ça sonne pareil, écoute.
Mais non, ça sonne pas pareil. Moi, je fais un fa dièse, tu fais un si.
Eh ben...
Bon, bah d'accord, c'est pareil.
Mais moi, j'ai envie de répéter comme ça, sur la
grade. Non, jamais, jamais. Tu confonds, c'est la même position, mais là, c'était comme ça, le doigt.
Mais arrête de se faire cette gueule de souffrance, non, mais moi, je peux pas jouer si t'as l'air tellement énervé comme ça, bordel.
Regarde, je te le montre, regarde.
Regarde. Mais je regarde, moi, j'entends. Pourquoi veux-tu que je regarde? J'entends.
Dans un entretien accordé aux Inrecuptibles après la sortie du film, Fred Chichin a déclaré... On est mal peigné, mal sapé, on n'est pas maquillé, minable quoi. On n'a pas triché, on a tout laissé. L'excitation et la déprime. Vous incarniez quelque chose et vous incarnez toujours quelque chose en tant que femme dans le rock'n'roll. Est-ce que vous aviez conscience de ça tout de suite ?
Ben oui, parce que je...
Puis vous avez écrit là-dessus aussi.
Ouais, et puis moi je sais que quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à faire les premières manifs du MLF. C'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Je me suis sentie commencer à pétiller, à dire mais oui, c'est vrai, égalité des droits, ça me touchait beaucoup, ça.
Signer un texte comme femme de Moyen Âge ou senior, je trouve ça politique, moi.
Oui, je suis d'accord. Mais même à l'époque, oui, le fait de parler de femme d'âge moyen, etc., c'était l'âge a toujours beaucoup compté pour les femmes, puisqu'on a une horloge biologique, que souvent on est plus désirable quand on est jeune et fraîche que quand on est un peu ratatiné, et les hommes aussi d'ailleurs. Mais
vous vous êtes imaginé vieillir en chantant?
Ouais. Maintenant, si ça marchait plus, auteur-compositeur, je peux toujours faire interprète, aller chanter des chansons. Et puis si j'ai plus de voix, je peux faire, je sais pas, autre chose. Dans 15 ans, bah, j'aurai 82 ans, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que je ferais, si je ne serais peut-être plus là. Enfin, là, mais sous terre, morte, je veux dire, tout simplement, ou vivante, ou faisant autre chose, ou enseignant, ou je ne sais pas. En même temps, j'ai la chance de me dire que l'inattendu peut venir.
Merci Catherine.
Merci beaucoup.
Le dernier album de Fred Chichin et Catherine Ringer s'intitule Variety. Et parmi les morceaux, il y a celui-ci, Même si. Le disque est publié en avril 2007. Fred Chichin décède en novembre de la même année. Même si est leur chanson d'amour et d'adieu.
Si quelque...
Pour écrire ce Pop and Rita, nous avons puisé dans la biographie écrite par San Cuesta, Catherine Ringer et les Rita Mitsuko, c'est le titre. Le livre a paru chez Hoébec dans la collection Les Indociles que dirige Stan Cuesta. Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko, ça s'est passé à la Philharmonie de Paris en décembre 2019 et c'est un concert sorti en disque chez Because en décembre 2020.
France Inter, Pop and Co. Rebecca Manzoni.
Une autre femme, une autre grande voix, c'est Yael Naïm. On sera dans son studio au cœur d'une de ses chansons bientôt et elle est au téléphone pour choisir le prochain disque, tout de suite.
Alors, j'ai choisi le Billie Eilish. Oui, elle représente une femme qui a su ce qu'elle voulait, en tout cas un être humain, mais une femme aussi. Et juste le fait d'y aller vraiment à fond avec ce que tu es, c'est ça que je pense qui touche en général dans l'art, c'est le fait de pas s'arrêter ni à ton apparence, ni à ton âge, ni à ton statut social, etc., etc. D'être soi-même et d'être libre.
Therefore I Am par Billie Eilish pour Pop & Co et sur France Inter. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less. And you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
Elle a 3 ans et demi et elle avait peut-être envie que le micro ne marche pas pour éviter que je ne monopolise sa mère. Mais on devait bosser, Yael Naïm et moi. Nous nous sommes donc installés dans son studio au premier étage. C'est là qu'elle a conçu son 5e et dernier album, toute seule et de nuit. Ce matin, on entre dans le cœur du premier morceau, Daddy, c'est le titre.
Close your listen to your heartbeat now. What have you become, oh God? What have you become? Close your eyes. Listen to the silence now. Time is moving on and I'm
Je redis quelques vers du refrain de cette chanson. Je jure que je fais de mon mieux. Mon père est mort.
Ça veut dire quoi pour vous, cette phrase-là ? Je jure que je fais de mon mieux.
Une tentative d'accepter le fait qu'on n'y arrive pas totalement comme on aimerait, qu'on n'assure pas totalement même vis-à-vis des autres, qu'on reçoit des reproches extérieurs, qu'on se reproche aussi des choses. Cette envie d'être sans faille ou de l'énergie qu'on dépense à cacher les failles. Voilà, moi je sais que j'ai eu dans l'éducation, peut-être c'était juste ma tendance, j'étais un peu la bonne élève, donc plutôt agréable, plutôt souriante, plutôt machin. Et à un moment, j'ai senti que je m'écroulais avec tout ça et que j'avais juste envie de dire vraiment, je suis en train de faire de mon mieux, vraiment. Excusez-moi, peut-être à me pardonner aussi, à me dire. J'arrive pas à faire mieux, c'est comme ça pour l'instant.
Est-ce que votre père a joué un rôle dans votre parcours musical ?
Oui, complètement. En fait, déjà, quand lui, il voulait être musicien, je pense. Il chantait un peu comme Elvis, il avait une magnifique voix. Et je dois l'avoir l'enregistrement aussi d'ailleurs. Attendez, je vais retrouver ça.
You are so long, you're so
un jour, il m'a envoyé ça. Donc, il m'a envoyé aussi des blues qui chantaient des trucs de Richards ou d'Elvis. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus. Qui était le plus étonnant, parce que tout d'un coup, je l'ai entendu à chanter une chanson à moi et pas à du Elvis ou machin. Donc, j'ai adoré comment il a chanté aussi.
Elvis qui chantait à Elnaïm, c'est classe.
Oui, c'est ça, c'est classe. Non, et en plus, il y avait pas mal de trucs, par exemple, dans les critiques, qui me disaient c'était. On entend beaucoup trop ta voix. Il faut des cœurs. Et moi, j'avais fait un rejet total de tout ça. Et sans le remarquer, quand j'ai fait mon premier album, New Soul, tout ça, il y avait des cœurs partout.
Mais là aussi, il y a des cœurs.
Et là aussi, il y a des cœurs. Donc, les cœurs, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que des trucs avec des cœurs. Donc voilà, ça a marché. T'as réussi ton coup. Donc, ouais. Donc les cœurs, c'est important. Et je les aime dans toutes les formes, dans tous les styles.
Est-ce qu'on peut les écouter, là, les cœurs ?
Oui, oui. J'avais envie d'enregistrer mes frères sur cette chanson-là.
Trying my best time.
Donc c'est Eyal, mon petit frère, qui chante, qui prépare son projet aussi.
And I'm doing my best time. Swear that I'm
donc Eyal est à vie.
Doing my best time.
Ça, c'est vos frères ?
Oui, parce que c'est pour notre père, donc c'était important pour moi qu'il soit là. Après, il y a les chœurs qui arrivent au deuxième couplet, donc ça, c'est les miens. Les voix qui se croisent, c'est des choses qui ont été influencées par des musiques comme la musique baroque.
Vous aimez écrire ? Des partitions pour des chœurs ?
C'est vraiment ce que j'aime faire, en fait. C'est la matière que je connais le mieux.
La voix ?
La voix. Et j'ai l'impression qu'on peut faire tellement, tellement de choses avec ça, c'est-à-dire avec notre corps, juste. Donc, quand on empile des chœurs de toutes les textures, on peut tout faire.
Les coulisses de Daddy, chanson de Yael Naïm, c'est Pop & Co. ce matin.
Je pense qu'en général, sur cet album, c'était ça. Ça commence par une solitude extrême. Et ça finit par être...
Ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit.
Ouais. comme si le monde alors imaginaire s'ouvre, infini en fait. Et du fait que ça avance, c'est-à-dire la guitare elle avance, donc c'est comme une marche. Et au-dessus, il y a... c'est vrai que les chœurs, maintenant qu'on y pense, il y a quelque chose qui rappelle du vent. Donc cette chanson, elle parle vachement de ça. Donc... Et puis cet album aussi, en général. C'est cette envie de créer la rencontre entre le monde concret, visible, qu'on connaît, et le monde invisible, et qui se parlent ensemble, qui cohabitent, qui se complètent.
J'aimerais qu'on écoute votre voix toute seule quand vous chantez.
Qui se marre ? C'est David qui se marre en bas. Alors.
Close your eyes, listen to the silence now. Time is moving on and I'm still inside this dream world.
Quand est-ce que vous êtes satisfaite d'une prise de voix ?
C'est très rare.
Ah ouais ?
Ouais, c'est très rare. Avant vraiment de clôturer l'album, c'est à ce moment-là que ça devient peut-être important d'avoir quand même une ou deux personnes. Bon, David, c'est David.
Votre compagnon, David Donatien ?
Oui. Qui me connaît bien, qui sait me dire quand entend que je m'écoute chanter ou quand j'ai lâché quelque chose de sincère.
Des fois, il peut vous dire, là, tu t'écoutes chanter ?
Oui, c'est ça. Parce que le fait de tout faire seul, bah, il peut avoir des moments où j'ai envie de trop maîtriser. Ou... C'est pas pareil de se regarder dans le miroir ou de prendre une photo, un selfie, je sais pas, c'est un exemple débile, mais... Et le fait d'être en train de vivre un moment de folie où tes cheveux ils sont pas arrangés, tes expressions sont pas maîtrisées, tu te laisses aller complètement.
Et c'est ça qu'on cherche quand on chante.
Voilà, et c'est ça que je cherche.
C'est pas le selfie.
Exactement. Exactement. Et ce truc-là, d'une part, j'arrive pas à l'atteindre quand je suis dans un vrai studio avec un ingénieur de son et plein de gens qui m'écoutent. J'ai besoin de cette solitude. On peut complètement se laisser aller. C'est peut-être comme surfer. Alors, j'ai jamais surfé.
Mais vocalement, ouais.
Non, mais par exemple, les descriptions de mes amis qui surfent, le fait de devoir tenir les muscles, mais quand même de se laisser aller avec la vague et de monter sur cette énergie-là, voilà, c'est peut-être le plus proche pour décrire avec une image physique cet état-là. C'est pour ces moments-là qu'on fait ce métier, en tout cas.
Est-ce que c'est facile de finir ?
Non, c'est horrible. De terminer tout court, tout. C'est-à-dire, même dans la maison, je commence à peindre un mur, puis tout d'un coup je vais être coupée, donc je vais tout laisser pendant un mois, parce que peut-être demain je vais continuer à peindre. Mais le travail sur la chanson, je peux travailler des années sur une chanson. Si on ne me dit pas stop, s'il n'y a pas une deadline, je vais pas livrer. Quoi. Et j'ai du mal avec le côté définitif de terminer quelque chose. C'est fini. En fait, au lieu de voir la fin, je me dis, ah voilà, j'ai fait de mon... C'est comme Doing My Best. J'ai fait de mon mieux pour maintenant, même si j'entends bien que c'est pas parfait. le suivant va être encore mieux, encore différent, etc. Je me force à avancer.
Cette chanson est celle qui ouvre Night Songs, le dernier album de Yael Naïm, paru pendant le premier confinement, cet automne, pendant le confinement 2 donc. Elle a publié un prolongement à son disque, 4 morceaux inédits, réunis sous le titre Unreleased Night Songs. Koy Nguyen est fidèle au poste pour réaliser Pop & Co chaque semaine avec Rémi Sistiaga ce matin, Ilinka Negulesco écume les archives et la documentation et Jean-Baptiste Audibert nous aiguille pour les choix des morceaux. La semaine prochaine, il y aura Ella et rien qu'elle. Pop & Co sera Pop & Ella Fitzgerald. À samedi.